Il est 8h23 à Paris, voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Sarkozy en garde à vue.
Cela fait maintenant 24 heures que Nicolas Sarkozy est en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il a eu le droit de rentrer chez lui hier soir pour passer la nuit, mais l'interrogatoire a donc repris ce matin. L'ancien président est convoqué dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Dans ce scandale libyen, nous rappelle Mediapart, l'enquête qui cible désormais directement Nicolas Sarkozy ainsi que plusieurs de ses proches, cette enquête est conduite par le juge d'instruction du pôle financier de Paris, Serge Tournaire, et ses collègues Aude Burezi et Clément Herbeau, chargés de dénouer les entrelacs de cette affaire d'État unique en son genre, dévoilée dès 2011 par Mediapart. La liste des délits visés par l'instruction judiciaire est longue. Corruption active et passive, trafic d'influence, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, blanchiment de fraude fiscale ou encore recel.
Alors le monde s'interroge.
La décision de placer Nicolas Sarkozy en garde à vue. Cette décision signifie-t-elle que les magistrats ont rassemblé de nouvelles preuves du financement illicite de la campagne permettant de le mettre en cause directement? Les autorités libyennes ont-elles finalement décidé de coopérer? Selon nos informations, poursuit Le Monde, plusieurs anciens dignitaires libyens de l'époque kadhafiste auraient livré de nouveaux éléments, confirmant les soupçons de financement illicite. Depuis plusieurs semaines, la justice française dispose en outre de nombreux documents saisis lors d'une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d'Alexandre Djouri, l'un des intermédiaires dans cette affaire. Jusqu'ici, rappelle Le Quotidien du soir, Nicolas Sarkozy a toujours contesté les accusations de financement illicite de sa campagne de 2007.
L'affaire n'est pas nouvelle, rappelle les dernières nouvelles d'Alsace. Elle colle comme quelques autres au basque de l'ancien président. Depuis que Mediapart l'a dévoilée, c'était en septembre 2011.
Oui, d'abord traitée avec prudence par la classe politique et mépris par la droite, cette affaire a pris de l'épaisseur au fil des révélations et des arrestations de proches de Nicolas Sarkozy. L'embrouillamini d'intermédiaires douteux et la multiplication d'indices concordants interpellent visiblement la justice, qui disposerait donc d'éléments nouveaux depuis quelques semaines, suffisamment pour relancer l'enquête, s'interroge aussi Le Quotidien alsacien, assez en tout cas, on le voit, pour l'accélérer d'une façon aussi spectaculaire. Et derrière l'ombre du financement surgit un soupçon bien plus grave, bien plus terrifiant, soupire pour sa part Sud-Ouest. Pourquoi, brusquement, la France de Nicolas Sarkozy en 2011 a-t-elle décidé de prendre la tête d'une intervention internationale et d'outrepasser sa mission initiale jusqu'à l'élimination du leader libyen? C'est ce spectre-là terrible qui vient de ressurgir derrière la garde à vue de l'ancien président de la République. En tout cas, relève la République des Pyrénées. Quelle que soit l'issue de la garde à vue de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, l'ancien président est cerné par suffisamment de procédures judiciaires pour que son quinquennat demeure l'un des plus troubles de la Ve République. Quant au rapport de l'Élysée avec l'argent, tous ses prédécesseurs ont connu leur lot d'affaires pas très claires, les mettant en cause ou leur entourage, mais pas à ce point.
Ce qui fait dire à Libération que cette affaire est à la fois réjouissante et désespérante.
Oui, la politique est certes un sport de combat, mais pourquoi faudrait-il s'habituer à la voir renvoyée dans les cordes du ring des affaires, s'interroge Libération. Désespérant aussi le cœur de la droite qui crie à l'acharnement de la justice et de son bras armé qui, à ses yeux, la presse. C'est évidemment tout le contraire, s'exclame le journal. Le dernier épisode d'une information judiciaire ouverte en 2013 est rassurant, estime Libération, réjouissant même, non pas de voir l'ancien président de la République gardé à vue, c'est encore une fois plus attristant qu'autre chose, mais il est réjouissant, pointe le journal, de constater que des policiers, des juges ont continué de travailler à leur rythme et en toute indépendance pour essayer de rendre la justice.
À la une également ce mercredi, ce constat en première page du Figaro, Syrie, les Kurdes abandonnés par les Occidentaux.
Oui, le Figaro qui dénonce avec force ce qu'il appelle un reniement. Aux Kurdes qui leur ont servi de fantassins dans la lutte contre Daesh, les Occidentaux ne savent qu'offrir, constate le journal. Alors, il les lâche, il les sacrifie. Cette indignité se fait dans l'indifférence de l'opinion et l'indignation très amortie des politiques. Il y a 3 ans, rappelle le Figaro, les jeunes combattantes kurdes qui avaient défendu Kobané face aux djihadistes étaient célébrées jusqu'au palais de l'Élysée. Alors aujourd'hui, on les regarde mourir en silence, s'exclame le Figaro. Cela semble une fatalité, comme si, à la fin, dans cet Orient compliqué, les Kurdes devaient toujours perdre. Cet abandon est d'autant plus révoltant, s'indigne encore le Figaro, que les Kurdes sont laissés seuls face à un autocrate turc qui passe son temps à défier ces mêmes Occidentaux et qui s'appuie sur des soi-disant rebelles syriens. algérien au fort relent islamiste. Nous renions, conclut Le Figaro, nous renions notre propre camp. Membre essentiel de l'OTAN, la Turquie vient non seulement, déplore Ouest-France, de pilonner les alliés kurdes des Américains et des Français, elle risque de combattre directement plus à l'est les forces américaines elles-mêmes, stationnées à Manbij, à moins qu'Ankara et Washington ne finissent par trouver un accord, puisque le contrôle de ces zones est, pour l'Amérique aussi, une manière de peser sur les futures discussions.
Enfin, on revient au Figaro qui publie son classement des lycées basé sur les résultats du bac 2017.
Avec cette année un nouvel indicateur fourni par le ministère de l'Éducation nationale, il s'agit du taux de mention. Alors, sans surprise, on retrouve en tête de ce classement les lycées parisiens les plus prestigieux. Le Parisien, lui, a établi aussi un classement des lycées, mais avec une autre méthode qui intègre la valeur ajoutée des établissements, c'est-à-dire leur capacité à faire progresser leurs élèves. Et là, c'est le lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui arrive premier au palmarès des lycées français, s'il vous plaît. Il est vrai, Arnaud, que la marge de progression des élèves dans le 9-3 est bien plus grande, apparemment, que dans les beaux quartiers de la capitale.
Merci Frédéric Couteau, revue de presse à retrouver sur RFI.fr. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est l'actualité africaine sur la Radio du Monde.